Nous avons été approchés par le Comité National de la Conchyliculture, l'organisme qui représente et accompagne le développement de la culture des huîtres, moules, palourdes, coques et autres coquillages, pour créer une édition spéciale dédiée aux coquillages.
C'est un sujet passionnant, mais qu'on connaissait finalement assez peu. Ainsi, pour mieux comprendre ces secteurs, nous nous sommes rapprochés des acteurs clés de la filière pour qu'ils partagent avec nous leur expérience et leur passion.
Confinement oblige, les épisodes de cette série spéciale coquillages sont enregistrés à distance. Bonjour à tous, je suis comme d'habitude avec mon associé Daniel qui adore les huîtres et qui est donc très excité par notre épisode du jour. Bonjour Daniel.
Bonjour Philibert.
Alors dans ce premier épisode de notre série spéciale coquillages, je te propose de commencer par l'origine forcément et de discuter avec un producteur et évidemment plus précisément un ostréiculteur. Donc je pense que tu vas être content, on va parler d'huîtres. Grâce à lui, on va même voyager un peu et ça fait du bien en ce moment car il est basé dans la baie de Bourgneuf en Vendée, juste en face de l'île d'Édouard-Moutier. Nous sommes avec Baptiste Rimbaud. Bonjour Baptiste.
Bonjour Philibert, bonjour Daniel.
Bonjour Baptiste.
Alors Baptiste, pour commencer, je vais te laisser te présenter rapidement, sachant qu'évidemment on a tout le temps du podcast pour venir sur ton parcours et ton métier. Je te laisse la parole, vas-y.
Donc voilà, Baptiste Rimbaud, je suis ostréiculteur à Bouin en Vendée, donc face à Noirmoutier comme tu disais, et je fais donc mes huîtres uniquement dans la baie de Bourgneuf, et j'ai une petite structure familiale, on travaille à deux personnes à l'année, et voilà quoi, on essaye de faire un beau produit.
Baptiste, on a une question rituelle dans cette édition spéciale coquillages. C'est pourquoi les coquillages? Comment tu es arrivé dans cet univers-là?
Je suis un peu né dans les huîtres. J'ai mon père qui a fait ça toute sa vie. Et dès que j'étais en âge de le suivre, je le suivais volontiers. Et je ne me suis jamais posé de questions sur mon futur métier.
Donc, ostréiculteur de père en fils.
Ouais.
Et c'est quoi? Tu es la deuxième génération ou ton grand-père faisait déjà ça? Ça, c'est déjà...
À l'époque de mon grand-père, il n'y avait pas beaucoup d'ostréiculteurs, donc lui, il était agriculteur, mais il travaillait aussi un peu aux huîtres l'hiver pour aider les ostréiculteurs, justement. Ils étaient quelques-uns. Et donc, je suis un peu la troisième génération.
Pardon, Philibert, mais juste pourquoi il n'y avait pas autant d'ostréiculteurs à l'époque de ton grand-parent? Il n'y avait pas autant d'élevage à cette époque-là, c'est ça?
Oui, en fait, en baie de Bourgneuf, l'ostréiculture, elle est assez récente, elle date des années 50. C'est des familles d'ostréiculteurs charentais qui étaient en recherche de nouvelles zones d'élevage. Ils n'avaient plus assez de place chez eux, ils avaient moins de rendement. Donc, ils ont cherché des nouvelles baies pour pouvoir exploiter les huîtres. Ils ont fait des essais en baie de Bourgneuf qui ont été très concluants. Donc, il y a plusieurs familles de Charentais qui sont venues s'installer à Bouin, Beauvoir-sur-Mer, et qui sont restées implantées là et qui prenaient les agriculteurs pour leur donner un coup de main sur les grosses marées d'hiver.
Et si on commence par justement ton histoire personnelle, comment on devient ostréiculteur?
Comment on devient ostréiculteur? C'est une passion plus qu'un métier, hein, pour moi. Moi j'ai suivi mon père et j'ai toujours aimé ça. J'ai fait quelques études pour pouvoir m'installer. Il faut quand même quelques diplômes maintenant pour pouvoir travailler sur le domaine public maritime et voilà.
Et gérer une exploitation.
Voilà, tout simplement. Mais c'est plus une passion qu'un métier. Ouais, on fait ça, on se lève le matin sans se dire on va travailler. On y va sans se poser de questions. Ouais.
Ça, la transition entre toi et ton père, les deux générations, comment ça a eu lieu en fait? C'est à un moment donné, ton père t'a posé la question si tu voulais récupérer l'activité ou c'est toi qui es tout de suite, qui étais proactif, qui t'es proposé. Comment cette transmission a eu lieu?
Moi, dès l'entrée au collège, je savais que je voulais faire les huîtres. Parce qu'on dit toujours faire les huîtres. Voilà, je voulais être ostréiculteur. Et dès que j'ai pu quitter le collège pour aller en enseignement professionnel, je suis parti après voilà, je suis sorti de l'école, j'ai travaillé avec lui et quand il arrivait en retraite, j'ai pris naturellement l'entreprise quoi.
La relève, ouais.
Ouais. Donc ça fait 13 ans.
Et tu prépares déjà la prochaine génération, tu as des enfants déjà qui
Alors j'ai
qui
un
se mêlent.
J'ai un fils qui est fan d'huîtres parce qu'il en mange, faut l'arrêter pour autrement, il en mangera tout le temps. Il a juste 6 ans, donc on va le laisser tranquillement faire sa petite vie. Et puis, il fera surtout ce qu'il voudra. Je n'irai pas le forcer ou quoi que ce soit. Ce n'est pas le but, il faut faire ce qu'on aime.
Et nous avons une audience et des gens qui sont surtout passionnés par la bouffe, en fait. Et je pense que parmi notre audience, on doit avoir des experts des coquillages et des huîtres. Mais il y a aussi ceux qui connaissent pas très bien, qui en consomment beaucoup, mais connaissent pas très bien les processus de reproduction, d'élevage. Est-ce que tu pourrais nous donner un petit topo de la vie de l'huître, en fait, de la reproduction à l'élevage, que ce soit sur nos assiettes? ouais. pour qu'on puisse avoir une bonne compréhension de son parcours.
Ouais, alors déjà, une huître, quand elle arrive dans l'assiette, elle a au minimum 3 ans. Il y a un minimum de 3 ans d'élevage, voire 4 sur certaines zones. Donc l'huître, il y a des huîtres qui sont sauvages dans le milieu naturel, donc, et qui vont se reproduire et qui vont faire naître des bébés huîtres, comme on peut dire, donc du naissin. On peut récupérer ce naissin en faisant du captage naturel. Et autrement, on peut s'approvisionner en essaim auprès des nurseries. C'est des nurseries, c'est des entreprises qui vont faire la reproduction de huîtres, mais en milieu contrôlé, ouais. et qui vont nous vendre le essaim à petite taille, puisque quand on l'achète, il fait 6 mm. Il a juste quelques mois, et il reste encore 2 ans et demi à 3 ans d'élevage dessus.
Dans ton cas, tu fais quoi? C'est plutôt, tu t'en occupes de la reproduction, ou tu vas plutôt aller chéter des petits bébés huîtres pour les élever?
Dans la majorité, on fait on achète des bébés huîtres. Tout près déjà, voilà. Donc, qui ont quelques mois, qui font 6 mm et qu'on va mettre en milieu naturel, donc sur les parcs à huîtres, et qu'on va élever comme les autres huîtres.
Juste, alors, du coup, une grosse question de béotien, j'y connais rien du tout, mais un bébé huître, ça a déjà une petite coquille, c'est quoi? C'est une larve? C'est quoi?
Oui, alors je dis bébé huître, hein, c'est le naissin, on appelle ça du naissin. Ouais. En fait, l'huître, quand elle naît, c'est une larve qui va se déplacer au gré des courants dans l'eau. Et au bout de 18 à 20 jours, la larve va couler au fond de l'eau, quoi, et elle va chercher un support. Et donc, ouais. Si elle trouve un support qui lui plaît, elle va se fixer. Et là, en se fixant, elle devient un huître, elle va former sa coquille, et si on la décolle pas, elle sera sur son support toute sa vie.
Donc toi, ce que t'achètes, c'est déjà une huître qui a une petite coquille, alors.
C'est voilà, qui s'est déjà fixée, et donc elle fait 6 mm. Donc c'est vraiment une petite huître, mais... C'est une huître.
Une autre histoire par rapport à la reproduction. J'ai deux petites questions par rapport à ça. La première, c'est que j'ai entendu parler que les huîtres, elles peuvent être mâles ou femelles et au cours de leur vie, elles changent de sexe.
Oui.
Est-ce que c'est vraiment le cas? Et je commence par cette question-là. Est-ce que tu peux nous expliquer cette histoire du sexe de l'huître? Parce que c'est toujours
intéressant.
C'est clair. On ne s'attendait pas à parler sexe dans ces podcasts, mais c'est toujours intéressant. Non, ouais.
Donc les huîtres, elles sont hermaphrodites, on dit hermaphrodites alternées, puisqu'elles sont un coup mâle, un coup femelle. C'est pas comme l'escargot qui est mâle et femelle en même temps. Donc en fait, à chaque cycle de reproduction, l'huître va changer de sexe.
Donc il y a une huître qui peut être femelle, et là pour la prochaine cycle de reproduction, elle sera mâle, et etc. C'est comme ça qu'elle fonctionne.
Exactement.
Mais elle peut pas s'auto-féconder. Elle a besoin d'une deuxième huître pour la fécondation.
Exactement, puisqu'elle a un seul sexe à la fois.
C'est où les régions où la reproduction d'huîtres elle a lieu? Parce que tu disais que la majorité des éleveurs d'huîtres, ils vont aller sourcer des bébés huîtres. Donc c'est dans quel coin de France qu'on voit cette reproduction avoir lieu?
Pour le captage naturel, là, les gros centres de reproduction, donc c'est de captage, c'est Arcachon, le bassin d'Arcachon, la Charente, donc c'est les deux plus gros centres. Nous après en Baie-de-Bourgneuf aussi, on fait du captage. Il s'en fait maintenant jusqu'en Rade de Brest, donc en Bretagne. Mais les deux gros centres, c'est Arcachon et la Charente.
Et du coup, si on revient sur le processus d'élevage, du coup, comment tu transformes un bébé huître à une grande huître? Quelles sont les grandes étapes, grossièrement, hein, pour qu'on prenne?
Ouais, ça va être grossièrement, parce qu'en fait, c'est vrai que c'est un élevage qui est quand même assez long, hein. Je vous disais 3 ans. Ouais. Donc, en fait, on travaille tout en surélevé sur notre zone de production. Donc, on dispose des tables en mer. Ce qu'on appelle des tables, c'est des structures métalliques qui sont à 50, 60 cm du fond. Et on dispose les huîtres dans ce qu'on appelle des poches, donc c'est des grands sacs en grillage plastique. Ouais. Et on met ces sacs d'huîtres, donc ces poches, sur les tables en élevage. Et donc c'est sur des zones qui découvrent à marée descendante et qui sont recouvertes bien sûr à marée montante. Et donc ces huîtres-là, plus elles sont jeunes, on va mettre une densité assez élevée dans les poches. Et à mesure qu'elles vont se développer, grandir, on va réduire la densité dans les poches et augmenter le maillage de la poche.
Ouais, donc ton métier consiste à ça, à suivre l'évolution de l'huître et du coup de refaire les sacs. J'avais vu des images, parfois on doit les retourner, je crois, c'est ça?
Ouais, donc là c'est ce qu'on a commencé à faire en ce moment parce qu'on est en pleine croissance des huîtres, c'est le printemps, donc les huîtres se grandissent. Ouais. Donc quand on retourne les poches d'huîtres, c'est pour avoir un rendu homogène dans la poche. On met quand même des densités assez importantes dans la poche. Si on ne retourne pas la poche, les huîtres qui sont au-dessus vont se développer selon la place qu'elles trouveront, mais celles qui sont en dessous seront contraintes et ne se développeront pas. Donc, on essaie d'avoir un rendu homogène. On, on durcit la coquille aussi. Et voilà, enfin, c'est tout un travail pour avoir un coquillage le plus rond possible, le plus dur et qui soit charnu.
Mais c'est quelle fréquence à peu près, du coup, de retournement de ces sacs, de ces, enfin, ces poches?
Alors là, on a commencé, donc, cette semaine, on va le faire sur les jeunes huîtres, on va le faire une fois par mois, jusqu'à septembre-octobre.
Et après, ça varie en fonction de la saison.
Oui, et puis selon l'âge aussi des huîtres. Donc, plus les huîtres sont vieilles, elles ont une croissance qui est moins importante. Donc, on va les retourner moins régulièrement. Mais on va les retourner au moins une fois tous les mois et demi durant l'été.
Donc, la manipulation principale dans ton métier, pour suivre l'élevage de l'huître, c'est de faire évoluer ces sacs et de les retourner, c'est ça?
Oui, alors le virage des poches, comme je vous disais, c'est actuel. Poches, ouais. Mais il y a entre chaque génération d'huîtres, comme on a en mer, on a des huîtres qui ont à peine un an, des huîtres qui ont un an et demi, des huîtres qui ont deux ans et demi. On a des stocks de tous les âges. Entre ce passage d'un âge à l'autre, d'une année à l'autre, on va ramener les huîtres quand même à terre, on va trier les huîtres. On a toujours un peu de mortalité, on a des huîtres qui sont collées entre elles qu'il faut décoller. On va séparer les huîtres qui sont plus grosses et plus petites, parce que les plus grosses vont toujours se développer plus que les petites. D'accord. Donc, on essaie de laisser une chance à tout le monde. Et donc, il y a pas mal de triage et quand même de manutention. Ouais.
Est-ce qu'il y a des parasites, Baptiste? Il y a des risques, en fait, dans l'élevage? Quels sont les risques, en fait, que tu fais face quand tu élèves une huître?
Il y a bien sûr... après, on a un coquillage donc, qu'on élève dans un milieu ouvert. Donc, on est dépendant de tout ce qui est apport d'eau douce. L'huître, en fait, elle va filtrer l'eau de mer et elle va chercher sa nourriture là-dedans. Donc après, malheureusement, on...
Je crois qu'elle mange des planctons, c'est ça de...
Voilà, du phytoplancton, que du plancton végétal. Et donc elle est en milieu ouvert et on dépend de la qualité de l'eau, en fait. Donc s'il y a un souci sur les apports d'eau douce qui arrivent en mer, on peut être embêté, que ce soit par une pollution ou une maladie. Mais on a la chance quand même d'avoir un coquillage qu'on... On peut pas tout gérer, quoi. J'appelle ça une chance. Hein. C'est ouais. qu'on ne peut pas vacciner les huîtres, on ne peut pas les nourrir, donc elles se débrouillent à se nourrir, elles se débrouillent à se défendre. Si elles doivent mourir, malheureusement, elles vont mourir, mais on peut rien faire là-dessus. On peut que les travailler, essayer de faire un beau coquillage.
Pour notre discussion aujourd'hui, j'ai regardé quelques vidéos sur YouTube et notamment je suis tombé sur une vidéo où il parlait du vol, en fait, qu'apparemment il y a quand même du vol, il y a des gens qui peut-être peuvent venir là où tu élèves tes huîtres pour les voler. Ça existe, en fait?
Ah, oui.
Tu l'as déjà vécu ou...
Ça m'est arrivé, un petit vol, hein. C'était 250 kilos, mais ça fait jamais plaisir. J'ai des collègues en Charente qui ont eu quelques tonnes de volées, ou en Bretagne, ah ouais. même par chez nous. Après, malheureusement, c'est interprofessionnel. Hein. Je veux dire, c'est des professionnels qui ont peut-être pas assez d'huîtres et puis qui veulent moins travailler que les autres et qui, du coup, vont servir chez les voisins. Donc, c'est un peu dommage. Je pense que c'est présent dans tous les métiers, mais c'est dommage quand ça vous arrive.
Et est-ce que tu peux nous expliquer les différentes catégories d'huîtres, les différentes variétés, d'ailleurs nous dire toi ce que tu as dans ton élevage?
Ouais, alors moi je ouais. produis que de l'huître creuse. Ouais. On a une seule variété d'huître en huître creuse en France, c'est l'huître japonaise, Crassus regigas. Ouais. Et donc j'élève uniquement cette huître-là.
Et tu peux nous dire la différence justement entre une huître creuse et une huître plate, je crois, c'est ça l'autre terme?
Ouais, ben l'huître plate, après, c'est complètement une autre espèce, donc pas du tout le même coquillage, pas la même façon d'élevage, et puis un goût encore complètement différent.
Et c'est quoi en goût, la différence de goût à peu près? Ça serait comment tu pourrais la décrire?
La décrire, ben après, c'est pareil. Une huître, si vous voulez, mon huître de la baie de Bourgneuf n'aura pas le même goût que l'huître de Charente, que l'huître de Bretagne. Donc déjà, rien qu'en huître creuse, on a déjà plein de goûts différents.
Là, ça devient intéressant là quand on commence à parler un peu de terroir. Là.
Bah, c'est exactement ouais. ça. On parle de merroir en mer pour le
merroir. Ouais.
Voilà. Vous prenez. Moi, je suis au nord de la baie de Bourgneuf. Vous prenez des huîtres du sud de la baie de Bourgneuf. On n'aura déjà pas le même coquillage ni vraiment le même goût. Donc, si vous passez d'un bassin à l'autre, c'est encore plus concret.
Et si mais on fait un parallèle justement avec la viticulture, donc du coup le terroir impacte, ça on y reviendra, mais du coup l'équivalent du cépage, ce serait la race, la variété, du coup l'huître creuse, l'huître plate, c'est deux variétés différentes avec deux structures de goût différentes, j'imagine.
Oui, 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 complètement différent. Je trouve un peu l'huître plate, j'en mange pas régulièrement, c'est un petit peu âpre au goût, et Il y a une petite amertume, mais c'est pas désagréable du tout, mais c'est complètement autre chose. C'est prononcé comme goût, ouais, c'est bon.
Et au-delà du type de d'huître, quel autre critère en fait joue dans les terroirs? C'est quoi? C'est la proximité avec une rivière? C'est la densité des planctons? Quels sont les éléments qui font d'un terroir un terroir?
Il y a plein de trucs sûrement que je dois pas gérer là-dedans. C'est bon, il y a les courants différents, il y a le fond de l'estran, en fait, le fond, s'il est vaseux, sableux, on n'aura pas la même nourriture. Il y a plein de choses comme ça. Le marnage, vous allez en baie du Mont-Saint-Michel, vous avez 14 mètres de marnage. C'est nous, on en a 5-6. Donc, ça n'a pas la même incidence sur le coquillage non plus.
Ça veut dire quoi, le marnage? Désolé.
Le marnage, c'est la différence de hauteur entre le plein mer et la basse mer.
Ah, d'accord, ouais.
Voilà.
Ah.
Donc,
ça a une influence sur la vie et le goût du coup de l'huître.
Ouais. Bah, sûrement les courants, le volume d'eau qui va être brassé va être différent d'une région à l'autre. C'est plein de facteurs qui font que justement il y a un terroir différent.
On a la chance d'enregistrer un autre épisode avec un mof, Bruno Gauvin, qui lui peut-être nous en dira un peu plus justement sur les différences de saveurs entre les différents miroirs, comme tu dis, de d'huître. Ça va être passionnant.
Ouais, et puis il y a aussi après le travail qu'on fait en finition pour l'huître. On ramène nos huîtres, on peut vendre nos huîtres en fine, en spéciale, en fine de clair. On peut vendre nos huîtres directement arrivées de la mer. Donc là, on appelle ça des huîtres de pleine mer qui vont être très salées et très iodées. Et nous, dans la région où on est, comme en Charente, on fait de l'affinage dans ce qu'on appelle des clairs. C'est des anciens marais salants, en fait, des fonds argileux, et c'est de l'eau de mer qui est là-dedans. Mais on va avoir une nourriture différente de celle qui est en mer qui va se développer. Et l'eau va être plus douce, moins salée, donc ça va adoucir le goût de l'huître. Donc ça, c'est encore un travail qu'on peut faire dessus pour modifier le goût de l'huître.
Ça, c'est ce qu'on appelle les clairs, c'est ça?
C'est l'affinage, ouais, voilà. On peut faire de la fine de clair, de la spéciale de clair. Puis après, on va jouer sur le taux de chair, si l'huître est plus charnue ou moins charnue. Enfin, il y a plein d'huîtres, il y a plein de bonnes huîtres partout, mais elles sont toutes différentes.
Et après, il y a le calibre, le fameux calibre.
Voilà. Donc, ça démarre au numéro 5, les plus petites huîtres, et on finit au numéro 0, qui sont les plus grosses.
J'ai une question par rapport à tu parlais de huîtres creuses et huîtres plates, et je comprends en fait qu'il y a beaucoup de temps, il y a très 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 longtemps, la côte française, il y avait que des huîtres plates, et ensuite elles ont été remplacées, elles ont disparu. Je pense qu'on avait trop mangé d'huîtres, et ensuite ils ont remplacé par des huîtres portugaises qui sont disparues. Aujourd'hui, nous avons des huîtres japonaises. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement en fait ces passages en fait de l'histoire de l'huître?
Oui, alors l'huître plate, je crois que c'est surtout une surpêche, ça a été surexploité, donc les gisements sont appauvris et il n'y avait plus assez de reproduction pour pouvoir faire une activité là-dessus. L'huître portugaise, elle a été élevée pendant pas mal de temps chez nous, enfin un peu partout sur toute la côte française, et elle a été décimée dans les années 70 avec une maladie que je ne connais pas, mais dans les années 70-72, tout le cheptel est mort, mais des petites huîtres du Nessin jusqu'à l'huître vendable. Donc c'est vraiment.
Donc ton père, il a vécu ça en fait.
Oui, oui. Mon père, il rentrait de l'armée, il devait vendre des huîtres qu'il avait mises avant l'armée. Il s'est pour se faire un petit peu de sous, comme il dit. Et je suis rentré, tout était crevé, comme il disait. Donc il a fallu trouver une solution. Donc il y a des gens qui ont été au Japon voir s'il y avait des possibilités de ramener du Nessin. Et c'est ce qui s'est passé. Ils ont ramené quelques souches de Nessin japonais. Et l'huître se plaisait vraiment bien chez nous. Donc, c'est ce qui a été introduit sur toute la côte française.
Et donc, aujourd'hui, c'est pour ça qu'on mange des huîtres creuses japonaises, ouais, quoi, d'origine japonaise.
C'est l'espèce japonaise, voilà.
L'espèce originelle vient du Japon, ouais, c'est ça.
Oui, oui, oui. Elle est élevée aussi donc, chez nous, bien sûr, là-bas, dans le Pacifique. Mais je crois aussi sur la côte ouest canadienne, il me semble.
Et si on parle de saison, parce qu'on parle beaucoup de ce sujet, est-ce qu'il y a une saison, est-ce qu'il n'y a pas de saison? Est-ce que tu peux nous... Parce que c'est vrai que moi, j'entendais avant qu'on disait qu'on pouvait consommer les huîtres que les mois où il n'y a pas de R, justement. Donc, en gros, ça s'arrête au mois de mai, ça reprend au mois de septembre.
Ouais, les fameux en R.
Est-ce que c'est toujours d'actualité? A priori, pas tant que ça, parce que l'été, on voit beaucoup d'huîtres de partout.
Oui. Ouais. Ouais, ben, en fait, de toute façon, maintenant, on a des consommateurs qui veulent manger des huîtres toute l'année. Donc, la grosse saison reste l'hiver pour l'huître. C'est quand même un plat, enfin une assiette d'huîtres, c'est toujours plaisant pour les fêtes, tout ça. Donc nous, la grosse saison reste les fêtes de Noël pour l'ostréiculture. Mais on a aussi une saison d'été avec les gens qui font les dégustations dans leur cabane ou dans les bars à huîtres.
Ouais.
Et la vente au détail. Et du coup, on élève une autre huître qui est un hybride. C'est c'est une huître triploïde qui est pas laiteuse en fait.
Parce que l'huître à l'état naturel, c'est ça, elle est en reproduction l'été, enfin de mai à... Enfin, l'état
ouais, de... septembre, elle, ouais. Elle est en reproduction sur fin juin jusqu'à fin juillet, début août, quoi. Là, voilà, ça dure 2 mois vraiment où l'huître est laiteuse.
Voilà, c'est ça. Donc, en reproduction, c'est-à-dire qu'elle est, elle dissipe, enfin, c'est ça qui fait qu'elle donne ce goût laiteux. C'est-à-dire quoi, d'ailleurs, laiteux, c'est-à-dire
la laitance, c'est la semence de l'huître, en fait. L'huître, elle va... Dès que l'eau va se réchauffer, à partir du mois de mai, là, l'eau va se réchauffer, elle va rentrer en maturation et puis elle va commencer à produire du lait. Et puis quand le lait est bon à expulser, elle va l'expulser. Mais donc ça dure à peu près 2 mois où là, l'huître est moins agréable à manger parce que ça donne un goût très, très amer et c'est pas très agréable en bouche. Donc pour pallier ça, on vend des huîtres. Donc c'est une huître triploïde qui est un hybride et qui, elle, ne rentre pas en reproduction. Elle est stérile, donc elle n'est pas du tout laiteuse et bien charnue.
Baptiste, tu sais que notre podcast il s'appelle Business of Bouffe, donc on s'intéresse beaucoup au business et je pense que surtout des gens, bah, les gens à Paris qui connaissent pas trop bien la filière de l'ostréiculture et les métiers, est-ce que tu peux nous parler un peu plus du business? On se demande par exemple combien d'huîtres tu produis par an, pour avoir une idée, un tonne ou un kilo,
je sais. Oui, ben, on parle en tonnes, nous. Donc moi j'ai une petite structure, donc je tourne entre 50 et 60 tonnes d'huîtres par an. C'est une petite structure, il y en a qui font 30-40 tonnes, mais il y en a qui font 200 tonnes, 500 tonnes, voilà.
Mais ceux qui font 400 tonnes ou 60 tonnes, c'est quoi? C'est plutôt c'est pas un ostréiculteur, c'est plutôt une société.
Ah oui, mais c'est une entreprise ostréicole pareil, sauf que au lieu de travailler à 2 ou 3, ils vont travailler à 15 et voilà. C'est parce que forcément il y a beaucoup plus de travail, mais tout ça c'est à proportion du volume à brasser.
De toute façon, c'est pas un secteur qu'on peut industrialiser. Genre, il n'y a pas d'huîtres qui sont avec un procédé plus industriel. C'est tout très artisanal.
C'est complètement artisanal, même sur une grosse structure, il y a beaucoup beaucoup de manutention. On travaille du vivant, c'est pas des boulons comme on dit. Donc ouais. faut faire attention, faut être minutieux quand même. Et puis on a toujours des risques de mortalité si on fait pas ce qu'il faut sur le coquillage. Donc faut être très minutieux. Et même sur une grosse entreprise, il y a quand même une belle part d'artisanat, quoi.
Que les très gros, ceux qui sont beaucoup plus gros que toi, est-ce qu'ils sont un peu plus mécanisés? Est-ce qu'il y a des procédés un peu plus aboutis que toi? Ou finalement, c'est comme toi, mais à plus grande échelle?
Non, il y a beaucoup plus. Enfin, voilà, ils ont du matériel beaucoup plus perfectionné que nous. On a quand même pas mal mécanisé le métier depuis quelques années. Ça s'améliore quand même. Mais bon, il y a toujours une grosse partie du tri qui va se faire à la main. Le conditionnement se fait à la main. Quand vous achetez une bourriche d'huîtres, s'il y a 50 huîtres dans la bourriche, elles ont été toutes mises une par une dans le panier bien à plat et contrôlées avant, voir si elles étaient bien bonnes à la consommation, quoi. Donc c'est y a beaucoup de contrôle à faire.
Pardon, j'avais une question par rapport aux saisons des consommations de l'huître. En fait, tu disais que la grosse période pour la filière, c'est vraiment la fin d'année, les fêtes des fins d'année où on consomme en France, je pense, 50%, j'en sais rien. C'est quoi le niveau des consommations? C'est pour toi la saisonnalité de l'huître, c'est quoi? Fêtes des fins d'année, tu fais quel pourcentage de ton chiffre d'affaires annuel?
Je fais quasiment 50% sur les 15 derniers jours de l'année.
Ouais,
mais ça peut être beaucoup plus dans certaines structures. Il y en a qui font vraiment une grosse partie de leur chiffre d'affaires sur Noël, ça peut être 70%, 80% sur certains. Ouais.
Et sinon, les restes, il est distribué également sur le reste de l'année ou une autre pic, genre l'été, par exemple, la consommation augmente?
Après, comme notre produit, il évolue tout le temps, on a toujours du stock et qui va grossir petit à petit. Et quand il est prêt à être, quand il est à taille vendable, en fait, on sert de ce stock-là. Donc, on a des huîtres pour toute l'année, en fait. C'est à nous de voir après selon leur croissance quand est-ce qu'on peut les vendre. Les grosses activités, je vous dis, c'est quand même Noël et après sur la côte charentaise, Arcachon, tout ça, et même chez nous, il y a beaucoup de ventes au détail et de dégustations, où là, il y a aussi pas mal d'huîtres qui sont consommées. Oui.
Si par exemple, tu as des huîtres, mais par une raison, tu n'arrives pas à les vendre, si tu la gardes plus des temps dans l'eau, ça peut abîmer les produits, ça peut le faire évoluer d'une façon que tu ne souhaites pas, ou tu peux les stocker quand même plus longtemps dans l'eau si tu veux.
On peut les stocker, mais faut pas les stocker trop longtemps parce que le produit grossit tout le temps, prend du poids et c'est pas spécialement là qu'il va prendre de la valeur. Les huîtres les plus consommées, c'est le numéro 3 et le numéro 2. Si on a du numéro 1 qu'on stocke trop longtemps, on va passer au numéro 0. Faut le vendre un jour ou l'autre, quoi. Donc c'est pas, on peut pas garder ça non plus des années et des années. Nous, quand l'huître est à taille vendable, il faut essayer de la vendre assez vite.
Et du coup, tu vends à qui, un ostréiculteur de ta taille, tu vends directement à des magasins, tu passes par des distributeurs, comment tu organises ta distribution?
Mais beaucoup de ventes en direct. Moi, je suis sur la commune de Bouin, on est 150 entreprises sur la commune, et on fait beaucoup les marchés le week-end.
Ouais.
Et donc, beaucoup de ventes en direct comme ça. C'est des petites structures, on fait souvent ça. Donc, on a 2-3 points de vente le week-end et on se déplace le dimanche pour vendre notre produit. Donc ça, ça nous prend quand même... pas mal de temps. Et autrement, après, moi, j'ai quelques restaurants, je fais un peu d'expédition pour certaines entreprises ou associations.
Ouais.
Et, bah, après, il y en a qui travaillent avec la grande distribution. Il y a plein de pistes pour vendre nos huîtres, quoi. Il y a plein de...
Et du coup, tes huîtres, elles vont où? Ça reste très local ou ça part un peu plus loin? Jusqu'où elles vont, tes huîtres, le plus loin possible?
Elles restent en France. j'ai jamais fait d'export. Le plus loin, c'est les Alpes. Les Alpes, un peu sur la Côte d'Azur, les Pyrénées, voilà. Mais on peut en envoyer partout.
Et t'as des confrères à côté qui, justement, en envoient plus loin, comment c'est pour comprendre,
ouais. Oui, il y a des entreprises qui font beaucoup d'export, même. Donc, les huîtres françaises sont quand même réputées. Donc, il y a beaucoup d'entreprises sur la Charente qui font d'export sur les pays asiatiques.
Ouais.
Voilà, même sur la Russie, c'est des pays qui consomment pas mal d'huîtres françaises.
Je lisais en fait que la France, c'est le quatrième pays producteur au monde, derrière la Chine, le Japon et la Corée. Ce sont des marchés où la production de huîtres est très importante.
Oui, et on est les premiers producteurs européens, la France.
Européens.
Voilà.
Et je pense que c'est aussi parmi, je ne sais pas si c'est peut-être les premiers pays consommateurs aussi de huîtres, au moins en Europe, non?
Ah oui, on consomme la quasi-totalité de notre production, en fait. C'est... Il y a une grosse partie de nos huîtres qui sont consommées en France, oui. Donc c'est vraiment dans nos habitudes alimentaires quand même de consommer des huîtres. C'est un plat, je vous dis, à Noël, c'est Noël sans huîtres, c'est juste pas possible. Et on a vraiment une clientèle d'habitués qui consomment des huîtres régulièrement. Donc c'est pour ça qu'il y a une grosse partie de la production française qui est consommée en France, oui.
Baptiste, si on parle maintenant du gros sujet d'actualité qui nous préoccupe tous et qui fait d'ailleurs qu'aujourd'hui ce podcast on l'enregistre malheureusement à distance alors qu'on aurait adoré être avec toi et déguster des bonnes huîtres,
il faudra revenir.
Tu peux compter sur nous, ça c'est évident. Et justement, si on parle de cette crise du Covid-19 et du confinement, comment elle impacte ton activité toi aujourd'hui?
Ben en fait, elle impacte mon entreprise comme toutes les entreprises qui essaient de fonctionner à l'heure actuelle, c'est qu'on a une grosse baisse de ventes. Je vous parlais des restaurants, moi j'y vais quelques restaurants sur la semaine, il y en a qui font des grosses tournées sur les restaurants, bon ben les restaurants sont fermés donc on vend rien. En grande distribution, j'ai des échos où malheureusement les gens vont pas en grande distribution pour acheter des huîtres, surtout pendant cette période, quoi.
Oui, ils achètent des produits de première nécessité mais
voilà,
pas du tout.
Voilà. Bon ben la saison du printemps qui commence pour les gens qui font de la dégustation sur leur entreprise, tout ça c'est fermé, c'est comme la restauration, donc il y a beaucoup de gens qui sont bloqués, qui n'ont aucun commerce en fait.
Ouais. Donc, tu parlais de la vente directe, tu parlais des marchés tout à l'heure, donc j'imagine que pareil, alors, certains marchés ont réouvert, mais est-ce que toi tu as encore des débouchés de ce côté-là ou c'est pareil, c'est à l'arrêt?
Alors moi sur 3 points de vente, j'en ai 2 que je peux continuer, donc c'est toujours ça.
Ouais.
Je m'estime heureux par rapport aux collègues qui n'ont rien du tout, voilà. Hein. Et je pense aux entreprises, comme je vous disais, les restaurants, tout ça, les magasins qui sont fermés, eux, ils n'ont aucune rentrée d'argent. Nous, on essaie de continuer un petit peu pour faire bouillir la marmite, comme on dit.
Ouais.
Donc, moi, je continue les marchés. On vend pas trop mal. Les gens consomment local. Donc, et comme ils vont pas trop loin autour de chez eux, ben... Ils sont contents de voir leur ostréiculteur le dimanche matin. Donc, ça se passe pas trop mal. Mais bon, on vend rien en dehors de la vente directe. Donc, on est à, on est à 30-40% de fonctionnement, quoi.
Et c'est justement pour ça que je te posais la question, parce que si tu arrives pas, si tu as pas les débouchés que tu devrais avoir comme d'habitude, est-ce que ces huîtres-là, tu les perds ou tu arrives quand même à gérer les stocks pour que d'ici quelques mois, tu puisses te les vendre, quoi?
Ben, le problème, c'est que ce qui est encore en numéro 4, numéro 3, on peut le stocker et le vendre dans un mois, dans deux mois. Elles seront peut-être en numéro 3, numéro 2. Voilà, elles auront grossi un petit peu. Donc, on les vendra parce que ce sera un produit quand même demandé. Mais tout ce qui est déjà du numéro 2, du numéro 1, c'est des produits moins demandés, le numéro 1, par exemple. Et il continue de grossir. Donc, il va arriver un moment où ce produit sera plus du tout demandé et je sais pas ce qu'on va en faire.
Ouais, t'as aucune idée, c'est déjà arrivé. Enfin, qu'est-ce que vous faites?
Non, justement, c'est jamais arrivé d'avoir des huîtres et de pas savoir quoi en faire, quoi. Donc, j'ai des collègues qui parlaient de peut-être en détruire. Enfin, c'est dommage d'en arriver là. On a bossé un produit pendant 3 ans, voire 4 ans. Et puis, s'il faut le jeter à la fin, ça nous fera forcément mal au cœur. Donc, on essaie de trouver du débouché et j'espère que le commerce va repartir et que les gens vont se faire plaisir avec des huîtres.
On est d'accord et on a tous hâte de le faire, moi les premiers. Et juste une question par rapport au calibre et les marchés. Aujourd'hui, la demande, elle est principale sur quel calibre? Sur les numéros 3, c'est ça?
Numéro 3 et numéro 2, oui.
D'accord. Et numéro 1, ça commence à être un peu trop gros et du coup, voilà, moins d'appétence.
Ça dépend des appétits, ça dépend des... Il y a des gens qui aiment vraiment les grosses huîtres. J'ai des clients qui veulent que des grosses huîtres parce que comme ils disent, autant... Quitte à en ouvrir une, autant en ouvrir une grosse. Ouais. Donc, c'est une belle façon de voir les choses. Mais, mais voilà, donc, c'est vrai que le numéro 1 est moins demandé. Donc,
mais parce que, en goût, ça évolue au-delà de sa texture et du fait qu'elle soit plus généreuse. En goût, c'est-à-dire qu'elle est moins concentrée, elle est moins forte.
Non, le goût est encore peut-être plus prononcé parce qu'on a vraiment un coquillage qui va être très charnu. Plus on va prendre gros en général, plus ça va être charnu. Ouais. Mais après, il y a quand même le poisson, comme on dit, le poisson, la chair qui est assez imposante. Donc, ça peut moins plaire aux gens. Voilà.
Moi, perso, ça ne me fait pas peur. Donc, au contraire, passons le message. Consommons surtout en ce moment des huîtres plus petites. Donc, tu dis c'est les numéros 2, numéro 1 ou non, c'est quoi, c'est
le numéro 2 et le numéro 1, c'est quasiment les plus gros. C'est ce qui est le plus goûté.
D'accord.
Il y a une question que parfois les gens se posent par rapport à la pollution. Et comme tu disais que l'huître, elle filtre un peu l'eau de mer. Et il y a des gens qui disent, avec la pollution qui augmente dans la planète, l'eau, elle est plus polluée. Et du coup, l'huître, elle pourrait être aussi polluée. C'est quoi ton avis par rapport à tout ça?
Et malheureusement, on fait partie de, comme je dis, on est le dernier maillon au niveau du littoral. On peut pas traiter nos huîtres, on peut rien faire, mais donc elles prennent ce qu'elles trouvent dans le milieu. Après, nous, on est quand même, on a tous des agréments sanitaires, on est contrôlé par les services vétérinaires. Une huître avant de la vendre, on va la faire décanter dans une eau, justement, on va la passer dans une eau qui est décantée, donc pour la faire filtrer pendant minimum 2-3 jours pour qu'elle se débarrasse de toutes ces impuretés. Donc on fait ce qu'il faut quand même avant de mettre le coquillage en vente. Il est vraiment, on le purifie pour qu'il y ait pas de soucis, justement.
Mais Philibert, est-ce qu'on parle de l'avenir, de la suite?
On parle de la suite, on peut parler de la suite. Ouais, comment tu vois l'avenir justement de la filière ostréicole déjà suite à cette crise? Est-ce que tu t'inquiètes pour tes confrères, pour la filière?
Ben forcément que là, on regarde l'avenir au jour le jour surtout. C'est surtout ça. On espère, comme je vous disais, que ça reparte et puis qu'on puisse vendre un petit peu d'huître pour faire redémarrer l'entreprise. C'est un métier qui évolue, hein, on se remet en question sans arrêt. On a jamais une année, deux années qui se ressemblent, comme on est vraiment dépendant de la nature. Je trouve que le métier il se renouvelle pas mal. On cherche des pistes pour vendre les huîtres différemment. Les consommateurs évoluent, donc on essaie d'évoluer au même rythme qu'eux.
Et vous iriez vers. Tu penses à quoi quand tu dis ça? T'irais vers quoi justement?
Souvent, mes parents disaient, donc leur génération disait qu'il y avait que les anciens qui mangeaient des huîtres, les jeunes n'en mangeaient pas. Je trouve que ça change. Les jeunes, on en voit de plus en plus quand même sur les marchés qui s'intéressent aux huîtres. Ouais. Je trouve que ça revient, ouais, quand même. Et par contre,
c'est rassurant. Ouais.
Ouais, déjà. Après, la façon de consommer va être différente. Du genre, ça va être plus sur de l'événementiel où les gens vont consommer les huîtres parce qu'elles sont ouvertes. Voilà, ça, je fais un petit peu de prestations comme ça des fois et on voit que quand c'est ouvert, tout le monde en mange en fait. Donc, je pense que l'ouverture de l'huître les rebute un peu des fois.
Il faut rappeler que c'est quand même la grosse barrière de la consommation des huîtres, c'est l'ouverture.
Mais oui, mais oui. Donc, on a toujours quelqu'un qui trouve une super idée pour comment faciliter l'ouverture de l'huître. Ouais. Bon, c'est pas encore tip top, mais on voit quand même que ouais, le consommateur, quand l'huître est ouverte, il se régale et il y a beaucoup plus de consommateurs qu'on croit en fait.
Et c'est pour ça qu'en ce moment les restaurateurs nous manquent terriblement, parce que moi c'est mon cas, les us, je les consomme surtout parce que je suis un gros fainéant et surtout je sais pas ouvrir les huîtres, mais il faut que j'apprenne parce que là ça me donne envie. Mais c'est clair que c'est dans les restaurants où on a justement les gens qui sont capables et qui ont les compétences pour bien ouvrir les huîtres, c'est quand même très appréciable.
Mais c'est surtout pas si compliqué que ça en fait, c'est que ça fait peur. Mais ce n'est pas si compliqué que ça et c'est pas, enfin, quand on a les bons gestes, c'est pas dangereux du tout.
Écoute, ça, on aura l'occasion aussi d'en reparler avec Bruno Guevin dans le deuxième épisode. Moi, j'avais une question par rapport à la distribution aussi. Nous, on a vu beaucoup dans notre podcast aujourd'hui des initiatives de vente directe via des sites en ligne, des plateformes qui ont aidé des producteurs à créer des débouchés au moment où la restauration et les marchés ferment. Toi, est-ce que t'as été contacté? Est-ce que t'es un peu présent sur ces circuits-là? Est-ce que t'envisages d'y aller un peu plus à l'avenir?
Ben, je suis référencé là sur deux sites, je crois, là, qui sont mis en place par rapport au Covid-19, ouais. Pour favoriser la vente avec des produits locaux. Ouais. Donc, y a deux petits sites où je suis, et puis j'ai essayé un peu de vente en ligne aussi.
La vente directe, tu dis, toi, tu as créé ton propre site ou
Non, c'est un site justement qui fait de la promotion pour les produits vendéens. Et du coup, je me suis mis là-dessus pour c'est histoire d'avoir une vitrine un peu et puis d'être référencé quelque part. Et
ça marche. C'est l'opportunité d'en faire la promo. Il s'appelle comment les sites?
Ça s'appelle en fait Place Vendée.
Place Vendée, d'accord. Ouais.
Place Vendée.
Et donc, si on est en région, si on est loin, si on est à Paris ou si on est au sud, on peut passer des commandes?
Ah oui, parce que forcément, c'est comme certains grands sites qu'on va pas nommer, mais vous pouvez commander en ligne et puis ils s'occupent du transport et vous recevez ça à la maison directement.
En frais. Et du coup, ça marche à Paris. Là, je peux commander sur ce site Place Vendée et avoir tes huîtres assez rapidement dans les jours à venir. Ça fonctionne.
Ça fonctionne. Cool. J'en envoie toutes les semaines. Depuis justement le Covid-19, on en voit quelques bourriches par semaine, c'est pas beaucoup, mais en région parisienne, un peu partout, les gens veulent se faire plaisir avec des huîtres, on le fait toute l'année hein, déjà, mais ça part par Chronopost Food, donc c'est un service de livraison produits frais.
Chrono Fresh,
Chrono Fresh, ouais. Et c'est livré en 24 heures dans toute la France.
Ça marche très bien, c'est cool.
Et une petite question par rapport à la fraîcheur de l'huître. Une fois qu'elle est sortie des lots et que tu l'as dispatchée par ChronoFresh, elle se garde combien de temps? Si moi je reçois ça, je mets dans mon frigo, je la garde combien de temps?
Vous la gardez 8 jours sans problème.
D'accord. Donc ouais. Même si on achète des grosses quantités, on n'a pas besoin de les manger d'un coup. On peut manger ça sur 2 week-ends, quoi.
Et justement, mon petit conseil, c'est ça, c'est que les huîtres, le mieux, c'est de les acheter et de les manger que 2-3 jours après, elles sont encore meilleures. Quand l'huître est restée en dehors de l'eau pendant 2-3 jours, elle reste dans son eau, dans sa coquille, et je trouve que l'huître est beaucoup plus goûtée, justement.
C'est intéressant, parce que là, tu casses une idée reçue. Moi, j'ai plutôt tout un stress avec l'huître de me dire, il faut la manger ultra frais, dès que je l'ai achetée, il faut la consommer le jour même, et au bout de quelques jours, je vais être un peu en panique.
Elle est forcément bonne, mais elle sera encore meilleure au bout de 3-4 jours.
Ouais, d'accord.
Voilà. Donc, 8 jours en dehors de l'eau, c'est, enfin, 8 à 10 jours. Quand c'est bien stocké au frais, les huîtres sont à plat dans un panier, il n'y a aucun problème. Et si vraiment vous avez un doute, l'huître, vous la prenez. Si elle est bien fermée et que quand vous l'ouvrez, elle est pleine d'eau, c'est qu'elle est bonne.
J'ai une question qui n'a rien à voir, hein, Baptiste, et peut-être tu vas pas pouvoir répondre, mais j'ai vu aussi en préparant, j'ai vu des gars qui utilisaient des coquilles, en fait, des huîtres et d'autres coquillages. Pour dans la construction en fait, parce que voilà, ils faisaient du béton avec des coquilles et donc ils trouvaient une deuxième vie pour ces produits-là qui après l'avoir mangé l'utilisaient dans la construction. Est-ce que tu connais des usages un peu atypiques des coquillages en fait? Qu'est-ce qu'on fait avec les coquilles? Toi, qu'est-ce que tu fais avec les coquilles une fois que tu as mangé tes huîtres?
Alors, nous, on a forcément du déchet d'huîtres, justement des déchets de coquilles. C'est sur l'élevage, on a de la perte, on a quand même un peu de volume d'huîtres qui sont mortes. Donc ces huîtres-là, on les laisse sécher. Et, en général, ça sert un peu de remblai dans les chemins de terre autour de l'établissement pour les agriculteurs. Mais maintenant, c'est un peu valorisé. Il y a des entreprises qui récupèrent justement ces coquilles d'huîtres et qui vont les incorporer. Elles vont être brisées, ça va faire une sorte de farine. Et ils vont être incorporés. Ça marche pour de la peinture, pour les bandes blanches sur les routes. Ils parlent de l'intégrer aussi dans les ciments. Ça peut fonctionner aussi pour de l'élevage avicole ou un amendement pour les terres. Il y a plein d'usages nouveaux avec nos déchets. Donc, c'est plutôt pas mal. Chouette, parce que c'est d'actualité. Il faut valoriser nos déchets qui sont pas forcément des déchets en fait. Et ça peut servir à plein de choses. Et même de la céramique, je crois. Il y en a qui se lancent sur de la céramique avec des coquilles d'huîtres.
Sympa.
Et du coup, toi, ça veut dire que ces déchets, tu peux les valoriser, tu les revends ou c'est du...
Alors là, pour le moment, ils sont collectés gratuitement, mais bon, ça nous débarrasse, c'est déjà pas mal.
Ouais.
Les personnes qui récupèrent ça viennent, se déplacent, récupèrent les coquilles et eux, après, eux les valorisent, mais voilà, ils prennent ça gratuitement, c'est déjà beaucoup.
Toi, ça te débarrasse, donc déjà, c'est un vrai service. Puis peut-être qu'un jour, tu pourras le valoriser, je te le souhaite.
Ouais, pourquoi pas.
À la fin du podcast, on a une question qui est rituelle, c'est les bons plans de notre invité. Donc, dans ton cas, effectivement, c'est les bons plans huîtres, quoi, les bons plans coquillages. Tu nous as déjà donné une super astuce en disant que si on garde l'huître 3-4 jours, elle est encore meilleure.
Ouais.
Est-ce que tu as d'autres plans comme ça à partager avec nos auditeurs?
Alors là, je vais réfléchir du coup parce que vous me prenez de court. c'est tellement
déjà comment tu cuisines l'huître à la maison quand tu la manges, je suppose souvent plus. Mais est-ce que tu as d'autres astuces, d'autres recettes?
Je vais être contradictoire avec ce que j'ai dit tout à l'heure. Moi, j'adore les huîtres. Les meilleures pour moi, c'est celles que je mange sur le parc. Il y a très peu de jours où je mange pas d'huîtres. Je vais en mer. J'étais en mer encore ce matin. J'ouvre 2-3 huîtres, je les mange et voilà, c'est les meilleurs. Sur le parc, assis sur le bord du bateau, c'est génial.
Ça fait rêver, ça donne envie, ça, c'est clair.
Oui, forcément.
T'as raison d'en profiter.
Oui, c'est ça. Après, nous, on est vraiment habitués à manger le coquillage nature, quoi. Donc, il y en a qui mettent un peu de citron, une petite vinaigrette d'échalote. Mm-hmm. Je trouve pas ça... Le citron un petit peu, si vous voulez, mais l'huître en elle-même, vous la prenez déjà et surtout, vous ne la gobez pas, vous la croquez. Mm. Parce que le truc de gober l'huître, c'est juste boire la tasse à la plage, ça ne sert à rien, c'est du sel, c'est tout. Donc, faut la croquer, et c'est là que le goût va se libérer dans votre bouche, et puis surtout, vous aurez une longueur en bouche, si l'huître est bien charnue, c'est doux sur le palais, c'est super agréable.
Il faut mâcher pour qu'il y ait pour que les arômes explosent en bouche, c'est clair.
Si vous voulez le petit goût de noisette, il faut croquer, et voilà, et que ça reste un peu en bouche.
Et toi, tu as une préférence par rapport au calibre, par rapport à affinage ou pas affinage?
Et moi, je mange les plus charnus possibles en numéro 2, voilà. Donc, un numéro 2, c'est déjà assez gros. Et puis, si on peut avoir de la spéciale, c'est le top. Donc, une huître spéciale, c'est une huître qui est très charnue. Donc, plus ça va être charnu et plus vous aurez du goût.
Comment on sait qu'elle est spéciale? Parce que sans l'ouvrir, en fait, comment tu définis ça, les calibres 2 spéciales? C'est par rapport à la taille qu'elle fait, en fait?
La spéciale, après, c'est une huître qu'on va travailler encore différemment. On va faire vraiment un travail de finition dessus. On va les mettre sur... On a différents niveaux en mer de parcs. Il y a des parcs qui vont découvrir presque tous les jours, d'autres qui vont découvrir qu'en grosse marée. Donc, les parcs qui sont assez hauts vont surtout servir à faire de la finition. Donc, l'huître va être un peu stressée parce qu'elle va être souvent en dehors de l'eau, mais du coup, elle va pas grandir beaucoup et elle va faire une coquille assez dure et faire de la chair. Et ça peut servir pour faire de l'huître de qualité comme de la spéciale. Et donc voilà, on peut faire de la spéciale de clair en la passant en clair et en petite densité, et là encore on donne encore un goût supplémentaire. Mais après, c'est vraiment des huîtres qu'on va travailler à part de notre stock, donc on sait que c'est de la spéciale, quoi. Après, le meilleur test, c'est de l'ouvrir puis de la manger, hein.
C'est fou de voir que la position, comme tu le disais, dans la table, enfin change le goût de l'huître. Enfin, de toute façon, on est complètement dans les produits du terroir, ou là du coup, comme tu dis, du miroir, ou fonction de l'endroit, de la position, et même c'est pareil dans le terroir. Je fais toujours souvent des parallèles de viticole, mais en effet, si on a une inclinaison de la pente comme ça, on va avoir un goût et un résultat très différent sur le vin. Là, j'ai l'impression que c'est pareil sur lui, donc c'est vraiment passionnant. Merci.
C'est très complexe en fait, parce que c'est là que c'est passionnant, c'est que on a des parcelles qui vont être bonnes pour faire de l'élevage sur des petites huîtres, d'autres sur de la finition. Enfin voilà, c'est après on connaît nos emplacements, nos parcelles en mer. Mais chaque parc va avoir un peu son utilité et voilà, ça se fait, tout ça se fait avec le temps, quoi.
Et tu vas avoir un produit fini différent. Bah écoute, voilà. Merci beaucoup, Baptiste, pour le temps que tu nous as consacré, toutes ces précisions. C'est vrai que clairement, ça donne envie. Là, j'ai envie de me taper ma petite
bouteille. Ah, c'est clair. Moi, j'ai envie de taper une bouteille des blancs et quelques huîtres.
Il faut venir à boire
des gens. Fais attention avec ces invitations-là, Baptiste, parce qu'on vient vraiment.
Pas de problème, je vous attends.
On est très frustrés, comme beaucoup de gens, par le confinement. Et moi, ce que je préfère dans tout ce qu'on a raconté, c'est ce que tu dis, c'est la dégustation là, sur le site de production. Pieds dans l'eau, quoi. Canon.
Oui, ça fait rêver. Hein.
Bah, ouais, ça fait rêver. Heureusement que c'est parti cool parce qu'on sait que ton quotidien n'est pas non plus tous les jours rose. Bah, merci beaucoup.
Non, on n'est franchement pas les plus à plaindre. On a un confinement que je dis luxueux parce qu'on est en mer tous les jours, au soleil. Donc voilà, on n'est vraiment pas malheureux.
Bah, ça fait du bien de l'entendre. Merci beaucoup, Baptiste.
Merci beaucoup, Baptiste.
Au revoir.
Au revoir.
Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles sur votre appli et surtout partagez notre podcast autour de vous.
Nous vous invitons également à vous inscrire à notre newsletter pour essayer de voir les prochains épisodes. Pour cela, rendez-vous sur les sites businessofbouffe.com.
À très bientôt.